Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter cette semaine sur l'état de la Russie. Que se passe-t-il en Russie? Nous allons essayer de l'entrevoir avec le concours de Françoise Thom. Bonjour Françoise. Françoise Thom, qui est spécialiste de la Russie, qui est professeur émérite à la Sorbonne et qui est en même temps a publié très récemment « Poutine ou l'obsession de la puissance », c'est aux éditions de la Sorbonne précisément, je crois.
Non, Litos, aux éditions Litos.
Pardon. Et c'est la Marche à rebours qui est aux éditions de la Sorbonne, qui est aussi un de vos derniers livres. Je rappelle que Françoise Thom, que vous avez été une des rares personnes à, depuis tant d'années d'ailleurs, à nous décrire ce qu'allait devenir le régime de Vladimir Poutine, notamment dans son attitude par rapport à l'Ukraine et à la guerre. On va peut-être commencer par ce qui domine l'actualité quotidienne. Ce sont chaque jour des déclarations d'Evgeny Prigogine, c'est-à-dire le fameux patron de la milice Wagner, et qui, lui, tient des propos assez iconoclastes, des propos qui sont normalement ceux d'un opposant, normalement, puisqu'il s'en prend au ministre de la Défense, il s'en prend à la stratégie militaire de la Russie, il n'hésite pas à mettre en cause la stratégie poutinienne, d'ailleurs, au point qu'on se demande... Qui est-il ou que fait-il plus exactement? Est-ce qu'il est dans une démarche où certains secteurs de la Russie veulent se débarrasser de Poutine et portent des premiers coups? Ou bien est-ce qu'au contraire, il est la pointe avancée de la défense de Vladimir Poutine face à ce qui pourrait être une volonté de l'écarter, Françoise Thom? Comment regardez-vous ce phénomène?
Je crois que sa position a tout simplement évolué. Au début, c'était un peu le chien de garde de Poutine, le Rottweiler de Poutine qu'il lançait contre la hiérarchie militaire. Parce que comme tout bon dictateur du Kremlin, Poutine se méfiait des militaires et voulait les garder sous bon contrôle. Donc Prigogine servait un petit peu à ça, à inquiéter les militaires, à leur faire peur et à les faire dépendre justement de l'arbitrage du président. Mais depuis quelque temps, il est clair à mes yeux, en tout cas, que Prigogine, qui a un remarquable flair politique, il faut le souligner, il a le flair du truand qui a expérience des camps, donc il a véritablement le sens du rapport de force. Il est clair que Prigogine s'est en quelque sorte émancipé de la tutelle de Poutine et qu'il joue son jeu propre. Il n'hésite pas à mettre en cause non seulement la hiérarchie militaire, mais même la guerre elle-même, hein, il a appelé cette guerre absurde. Il a dit c'est pas nous qui avons déclenché cette guerre absurde, ce qui est à l'évidence une critique cette fois-ci de Poutine lui-même. Donc c'est un indice très important. La popularité de Prigogine, cette popularité montante. Il paraît que les moteurs de recherche attestent que les recherches le concernant sont beaucoup plus nombreuses que celles qui concernent Poutine en Russie. Donc les Russes s'intéressent beaucoup plus à ce que peut dire Prigogine qu'à ce que peut dire Poutine. Alors pourquoi ce succès de Prigogine? Je crois que cela tient à plusieurs facteurs. D'abord, parce qu'il donne l'impression de parler vrai, hein, il indique les difficultés de cette guerre en Ukraine, et donc son discours détonne par rapport au rapport officiel du ministère de la Défense qui déclare toujours que tout va bien, tout se développe conformément au plan, etc. C'était aussi le discours de Poutine. Prigogine dit que les choses ne vont pas bien, que l'armée ukrainienne est excellente. Encore tout récemment, il a critiqué les propos de Poutine. Poutine a rencontré les blogueurs militaires il y a 2 jours, je crois. Et dans cette rencontre, il avait évidemment déclaré que tout allait bien, que l'offensive ukrainienne était un échec, etc. Prigojine a pris la parole immédiatement après et a déclaré « Mais non, l'offensive ukrainienne n'est pas un échec, les Ukrainiens se battent très bien, progressent, etc. » Donc là, on voit le défi direct à Poutine, la mise en cause directe des propos de Poutine pratiquement le même jour. Et on voit que Prigojine n'hésite pas, encore une fois, à s'opposer à la position officielle. Alors cela, il ne le ferait pas, j'ajoute immédiatement, il ne ferait pas cela s'il n'avait pas un soutien en haut lieu, s'il n'était pas, encore une fois, le porte-parole de certains groupes de l'élite, certainement, qui, eux, n'osent pas prendre la parole ou se manifester au grand jour. Mais Prigojine leur sert en quelque sorte de porte-parole. Donc Prigojine n'est pas suicidaire, hein. Il ne va pas se lancer dans une aventure de cette sorte s'il n'a pas ce qu'on appelle en russe un toit, hein, une protection en haut lieu. Il l'a certainement. Donc cela montre qu'un groupe, sans doute des groupes de plus en plus importants au sein de l'élite du Kremlin pensent qu'il est temps de mettre fin à cette guerre.
À cette aventure. Jean-Claude Casanova.
Quand on analyse justement ce que vous appelez les élites russes, quelles sont les différentes catégories? J'imagine qu'il y a les oligarques, les entreprises, qu'il y a l'assemblée, le système représentatif, si j'ose dire. Est-ce que Poutine a autour de lui un système de sécurité spécifique, si vous voulez? Comment peut-on décrire le noyau central autour de Poutine?
François Stomme.
C'est difficile à déterminer. Les élites, ce sont effectivement les oligarques, ceux qui contrôlent les grandes corporations d'État. La plupart du temps, il s'agit de Siloviki, d'hommes du FSB. Il faut surtout citer le FSB, hein, parmi les élites qui ont un pouvoir décisionnel en Russie. Alors Poutine a bien sûr s'est assuré des forces de sécurité qui sont à sa discrétion personnelle, notamment ce qu'on appelle en russe le FSO, c'est sa garde prétorienne, on peut dire sa garde personnelle, qui est dirigée par un collaborateur qui date de la période de Saint-Pétersbourg, de Poutine, qui est aussi, qui patronne aussi les Tchétchènes de Kadyrov. Hein, ça aussi, Poutine peut compter sur son fantassin Kadyrov, qui s'est lui-même appelé le fantassin de Poutine. Donc il a cette garde personnelle, il a les fantassins de Kadyrov, il dispose aussi de la garde nationale, qui est également contrôlée par le chef de sa garde personnelle. Donc vous voyez, il s'est assuré une protection multiple, hein, complexe, et il est très bien protégé, ça c'est évident.
Parce que s'agissant de l'élite économique, des oligarques, on sait très bien qu'ils se mettent en danger dès lors qu'ils tiennent des propos critiques. Il y a une liste déjà suffisamment longue d'oligarques qui ont rencontré des obstacles divers et variés qui les ont conduits au cimetière, pour savoir que dès lors qu'ils prennent des positions hostiles à Poutine, ils sont en danger de mort, évidemment.
Oui, c'est la politique d'intimidation des élites. Elle a été renforcée encore depuis le début de la guerre. Effectivement, vous avez toute une série d'oligarques qui ont trouvé une mort suspecte, des suicides, des défenestrés, des empoisonnements, etc. La liste est très longue. Et à l'origine, Prigojine faisait aussi partie de cet arsenal déployé contre les oligarques, puisqu'il appelait à revenir aux méthodes staliniennes, à fusiller les corrompus de l'arrière, etc. Donc, Prigojine faisait aussi partie de cet arsenal de méthodes d'intimidation déployées par Poutine contre les élites.
Alors, il faut rappeler d'ailleurs que Prigogine lui-même, on ne l'a pas rappelé, mais c'est un ancien prisonnier, c'est un ancien criminel. Il a été gangster dans une première partie de sa vie et il fait du gangstérisme d'ailleurs continuellement en Afrique, là où sa milice est présente, puisque ce sont des sortes de razzias qu'il opère en échange de la protection qu'il offre à certains chefs d'État africains. On pense notamment à la junte du Mali ou à la Centrafrique. Mais par ailleurs, est-ce qu'il peut vraiment s'émanciper au point de participer à ce qui est une des constantes aussi de l'histoire russe, c'est-à-dire des complots qui finissent par réussir contre le tsar? Est-ce qu'on est dans cette phase-là, dans cette période-là, ou est-ce que Poutine est solidement protégé et suffisamment populaire, peut-être d'ailleurs dans la Russie profonde, François Stomm?
Poutine est surtout protégé par la nature des élites qu'il a mises autour de lui. Ce sont en général des gens très peu courageux et serviles, parce que la promotion autour de Poutine, la promotion de ses proches, elle se faisait essentiellement à la servilité. Donc ce sont des lâches et ils ne risquent en principe ils ne risquent pas grand chose de leur part. Alors justement, Prigogine peut devenir un instrument de ces lâches, parce que rien n'est plus dangereux que des lâches qui se sentent menacés. Et quelqu'un comme Prigogine peut justement leur servir de force de frappe, en quelque sorte. Ça n'est pas exclu.
Jean-Claude ?
Oui, mais il y a un problème spécifique qui est le problème de l'armée, qui a toujours existé dans la Russie révolutionnaire. C'est d'une certaine façon, dès l'origine, le pouvoir soviétique craignait deux choses, Thermidor et l'armée. Et donc, il y a toujours eu un contrôle politique très étroit de l'armée. On a bien vu, quand Staline veut se débarrasser de Trotsky, la première chose qu'il fait, c'est de séparer Trotsky de l'armée, d'éviter qu'il puisse utiliser l'armée. Or, l'armée, par nature, une armée moderne, c'est un système de techniciens et c'est un système hiérarchisé. Alors, comment arrive-t-il à contrôler l'armée? Parce que il doit nécessairement y avoir à l'intérieur de l'armée, au niveau le plus élevé, des gens qui supportent plus ou moins bien le gouvernement politique de Poutine. Parce que, comme disait Clausewitz, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. On leur fait faire la guerre. Est-ce qu'ils sont suffisamment autonomes?
Alors là, il faut faire la différence entre la haute hiérarchie de l'armée et peut-être les militaires qui sont plus proches du front. La haute hiérarchie de l'armée, elle est très bien contrôlée. Poutine a utilisé les méthodes qui étaient les méthodes tchéquistes, hein, pour contrôler l'armée, c'est-à-dire qu'il existe l'équivalent des commissaires oui. politiques que les bolcheviks avaient introduits justement pour surveiller les officiers blancs, parce que Trotsky avait recruté des officiers de l'armée blanche ou de l'armée tsariste qu'il avait mis au service des forces bolcheviques. Essentiellement des officiers tsaristes. Pour éviter les dangers politiques, il avait mis en place des commissaires politiques qui surveillaient ces officiers. Et ben, ce principe de commissaire politique, il a été restauré par Poutine, d'ailleurs, il y a très longtemps. Il a remis ça en vigueur. Alors, ce sont des officiers du FSB qui ramassent ce qu'on appelle en russe le compromat, les dossiers compromettants sur les officiers surtout les officiers de haut niveau. Et ce sont des dossiers qui permettent de les faire chanter. Et comme la haute hiérarchie militaire est totalement corrompue, à l'image du reste en Russie, ben, il est très facile de les maintenir dans la soumission, justement, parce que sur chacun, il y a des dossiers compromettants sur leurs malversations diverses. Donc c'est comme ça. Là, je ne crois pas un complot possible dans l'armée. De toute manière, il n'y a pas de tradition en Russie à parler décembriste, mais il n'y a pas de tradition de putsch militaire. Les militaires ont pu intervenir, comme Joukov en 57 est intervenu pour soutenir Khrouchtchev, mais c'était justement à l'initiative de Khrouchtchev lui-même. Donc, je ne crois pas à une initiative militaire contre le pouvoir politique. C'est totalement en Russie, c'est passablement exclu.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec François Stomme, spécialiste de la Russie. Nous essayons de discerner ce qui peut évoluer dans la politique russe, en tout cas dans la situation de Vladimir Poutine, vis-à-vis notamment d'Evgeny Prigojine, qui multiplie les critiques directes. Alors Prigojine, dans une de ses dernières déclarations, François Stomme évoque l'hypothèse d'une guerre civile comme point d'arrivée, au fond, de cette crise déclenchée par la guerre contre l'Ukraine. Est-ce que ça a, à vos yeux, un quelconque début d'indice qui laisse penser cela? Parce qu'on a plutôt, au contraire, l'impression que, s'agissant de l'opinion en Russie, le couple répression-propagande continue de bien fonctionner et d'assurer à Vladimir Poutine un soutien suffisant. François Stomme.
Tout dépend de l'évolution de la situation militaire. Si l'armée russe subit une défaite, la crise politique va devenir ouverte, très certainement. Personnellement, je ne crois pas à une guerre civile en Russie. Je pense qu'il peut y avoir, que la Russie peut revenir à son état pré-poutinien, si vous voulez, un agrégat de bandes, parce qu'au fond, il n'y a pas d'institution dans cette Russie poutinienne. Tout tenait sur l'arbitrage personnel du président, et les institutions ne sont qu'une décoration. C'était le pouvoir de Poutine, c'est un agrégat de bandes qui entoure le président et le président est en quelque sorte l'arbitre de ses chefs de bande. Donc avec l'affaiblissement du pouvoir de Poutine, et on a des signes d'un affaiblissement de ce pouvoir de Poutine, Poutine se montre étonnamment passif ces derniers temps, il est très en retrait par rapport à la guerre. La rencontre avec les blogueurs militaires est en quelque sorte une première. C'est la première fois qu'il aborde aussi directement les problèmes de la guerre. On a l'impression quand même que le pouvoir de Poutine est en train de se déliter. Alors dans ce cas-là, le régime peut se retrouver dans la situation de ses composantes de base, où ses composantes de base s'affrontent, ce seront des conflits de bandes. Mais j'appelle pas ça une guerre civile. Une guerre civile, ça demande déjà des citoyens. Et en Russie, on est encore loin du compte.
Jean-Claude Casanova.
Oui, vous avez écrit récemment un long article sur le problème des sanctions. Est-ce que vous avez l'impression que les difficultés économiques peuvent jouer un rôle dans la situation actuelle?
François Stomme.
Oui, je pense que les difficultés économiques vont jouer un rôle. D'abord, il y a une très forte inflation et bien sûr l'inflation va attiser un mécontentement sourd dans la base. Et puis, il y a le problème du complexe militaro-industriel qui a toujours été une priorité pour les dirigeants du Kremlin. Or, les sanctions mettent en cause le développement du complexe militaro-industriel qui dépendait quand même énormément des technologies occidentales. Alors, les Russes, évidemment, ont mis en place des circuits de contournement des sanctions. Mais d'abord, ça ne leur permet pas de tout obtenir, ce qu'ils souhaiteraient. Et puis, ça revient très très cher. Il faut payer les intermédiaires, c'est aléatoire. À mon avis, la politique de sanctions est extrêmement efficace, contrairement à ce que nous disent les porte-parole du Kremlin, c'est une politique efficace et il faut s'y tenir et essayer de colmater les brèches par lesquelles le Kremlin arrive à se procurer, notamment les technologies pour ses fusées et ses missiles.
Le risque dans ce genre de situation où un pouvoir dictatorial s'affaiblit, c'est qu'il cherche une sorte de fuite en avant. La fuite en avant pour Vladimir Poutine, ça ne peut être que durcir le conflit avec l'Ukraine et donc peut-être utiliser des armes que jusqu'à présent il n'utilise pas. Est-ce que vous croyez à une hypothèse de cette nature? Alors que les experts occidentaux ont plutôt tendance à considérer qu'il ne touchera pas, malgré le déplacement des armes nucléaires, d'armes nucléaires en Biélorussie, que malgré tout ça reste de la gesticulation et qu'il n'ira pas jusque-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même malgré tout un processus extrêmement classique de dictateurs acculés comme cela ou qui commencent à s'affaiblir, à chercher justement dans une fuite en avant leur propre salut, François Stomme?
Ouais, c'est certain que Poutine a toujours cherché à se sortir des impasses dans lesquelles il s'était mis par une escalade. Ça a toujours été son comportement, chercher l'escalade. Donc on ne peut pas l'exclure, mais ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser intimider par ces menaces. Il faut simplement essayer de se mettre à l'abri de...
En tout cas, l'explosion du barrage montre qu'ils sont prêts à beaucoup de choses. Ce qui est une méthode stalinienne, d'ailleurs.
Oui, exactement. Il est tout à fait prêt à organiser des provocations. Il faut s'attendre à toutes sortes de mauvais coups.
Jean-Claude,
le problème du nucléaire est spécifique parce que on a bien vu ses politiques d'escalade. Quand il a fait la guerre en Tchétchénie, il a tout simplement, en utilisant d'ailleurs des termes extrêmement crus, si vous voulez, il a monté le niveau de tuerie, si vous voulez, et de sauvagerie d'une certaine façon. Et il a gagné la guerre de Tchétchénie.
Oui, c'est ce qu'il fait en Ukraine aussi. Le but de Poutine, c'est la destruction de la nation ukrainienne dans une première phase. Il avait d'autres ambitions quand il a lancé cette guerre. Mais la première ambition, c'était la destruction de la nation ukrainienne. Et ça, cette guerre, évidemment, elle le fait progresser vers ce but, même si les Ukrainiens, militairement, ne sont pas battus, mais elle porte quand même un coup terrible à l'Ukraine, puisque les Ukrainiens sacrifient la fleur de leur jeunesse, alors que les Russes leur opposent des multirécidivistes. Ils perdent des populations qui sont en Russie, qui sont considérées comme sacrifiables à bon marché, tandis que l'Ukraine perd la fleur de sa jeunesse.
Simplement, en utilisant le nucléaire, c'est une arme d'une nature différente, si vous voulez. Les techniciens militaires doivent eux-mêmes intervenir. Et je pense que l'establishment militaire qui sait les conséquences du nucléaire, ce n'est pas d'une bombe, c'est pas les armes ordinaires, si vous voulez. Il y a des problèmes de diffusion, il y a des risques énormes. Là, il lui faut vraiment un accord avec toute la hiérarchie militaire. C'est une mutation, si vous voulez.
Oui, moi je ne compterais pas trop sur l'indépendance des militaires. Ce sont encore une fois, ils ont été sélectionnés comme tout l'entourage de Poutine pour leur servilité. C'est des gens qui ont été dressés à la servilité depuis 20 ans. Mais en revanche, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre à Poutine qu'il pourrait être atteint directement, lui personnellement, en cas de mesure de rétorsion. Ça, c'est dissuasif.
Voilà, on va peut-être rester sur cette promesse de dissuasion vis-à-vis de Vladimir Poutine. Merci donc François Stomme de vos éclairages aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit un livre intitulé Vladimir Poutine ou l'obsession de la puissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, évidemment, nous serons évidemment amenés à continuer sur ce sujet au fur et à mesure des développements de la situation à la fois en Russie et en Ukraine. Merci donc à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci à François Stomm, Jean-Claude Casanova et moi-même. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.